débat africain.
Philippe Lemarié.
Bonjour, avec aujourd'hui comme sujet les tsunamis silencieux sur le continent. Va-t-il ce continent être oublié? Doit-il craindre que l'énorme élan de solidarité en faveur des victimes des vagues en Asie ne joue à son détriment, alors que beaucoup de pays vivent une crise qui est quand même, tout de même comme une espèce de tsunami permanent? Avec nous pour répondre un peu à ces questions, dans ce studio à la Maison de la Radio à Paris, Serge Mikhaïlov, qui est le directeur des opérations à l'Agence française de développement, ou en tout cas il l'était encore il y a quelques mois, et qui enseigne maintenant à la Sorbonne, à Sciences Po, qui a été aussi directeur des opérations à la Banque mondiale à Washington, ainsi qu'Yves Okota, qui lui est conseiller auprès du ministère de la coopération régionale à Kinshasa, au Congo. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Et puis à Dakar, nous vous avons, Sanoum Baye, vous qui êtes économiste, qui est ancien de la Banque africaine de développement, d'ailleurs également. Sanou, d'abord, première question, vous vivez justement au bord de l'océan Atlantique. Hein. Est-ce qu'on a peur des vagues un jour, comme ça s'est passé malheureusement, on l'a vu dans l'océan Indien? Est-ce qu'on a peur des vagues quand on est au bord de l'océan comme ça?
Oui, et ça fait même l'objet de blagues plutôt, parce que bon, effectivement, quand on a vu ça, c'est le fait même des catastrophes naturel. On se dit, bon, on ne peut pas épargner ni l'Europe. Et c'est ça qui explique d'ailleurs cet élan de sympathie, hein, de solidarité, parce que tout le monde peut être victime de la même chose. Cet élan de sympathie est aussi exprimé par les Africains, aussi pauvres que nous soyons. Il y a ici des dons, il y a quand même un élan. Et puis aussi, c'est les victimes, on compte beaucoup de musulmans. Il y a beaucoup de musulmans en Afrique.
Mais on a l'impression que les musulmans, justement, puisque vous en parlez, paraissent bien silencieux. C'est quand même l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman du monde, finalement. Il n'y a pas une grande vague musulmane de solidarité, si je peux dire.
Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que les musulmans sont silencieux. Ils sont inaudibles à l'Occident, simplement, parce que le langage qu'ils tiennent n'est pas décodé par l'Occident. Hein. Les musulmans voient en ce qui se passe en Asie une punition divine. Hein. C'est la conséquence de ce qui constitue, ce qu'ils considèrent comme le viol permanent par la culture occidentale qui les font se rebeller, parce qu'il n'y a pas que... Il n'y a pas que le problème israélo-palestinien, il y a toute la culture occidentale qui est à l'opposé de tout ce qui constitue les valeurs islamiques.
Mais ça nous, tout de même, autour de vous, on pense vraiment que les 240 000 victimes, notamment en majorité à Bandar Aceh, qui est un coin vraiment perdu et pas du tout occidental de l'Indonésie, on croit vraiment que ces gens méritaient la punition divine?
Ce n'est pas une question de mérite ou de pas mérite, mais vous savez, ceux qui sont habitués à la lecture des Écritures saintes, vous verrez que depuis l'époque de Noé jusqu'à nos jours, il y a des punitions divines. Ça ne vise pas spécifiquement, mais c'est des manifestations divines selon les croyants pour manifester que le monde est dans un désordre. Et le monde est dans un désordre parce que le monde a trahi les valeurs humaines sur lesquelles il doit être fondé.
Ouais. Alors, est-ce qu'autour de vous, on pense aussi, ou est-ce que vous-même, vous avez l'impression que l'Afrique, finalement, le continent africain, s'il reçoit moins d'aide dans les mois, dans les années qui viennent, pourrait être une espèce de victime indirecte de cette catastrophe asiatique?
Mais écoute, il faut tordre le cou à ce concept d'aide, quoi, tu vois. En fait, ce serait même bienvenu que l'aide s'arrête. Parce que l'aide, ce qu'on appelle aide, l'aide, c'est une industrie. Et il n'y a aucun pays au développement dans tout ce droit humain qui a été développé avec de l'aide.
Bon.
Hein, il y a trois sources de financement disponibles. Hein, il y a l'investissement, il y a l'épargne locale et il y a l'aide qui est fournie. C'est pas de l'aide vraiment, il faut mettre ce mot entre guillemets.
Bon.
C'est
on
des
va...
prêts qui financent la consommation,
Sanoum...
c'est des prêts qui financent la dépendance. Hein?
Sanoum Baye, on va y venir. Mais est-ce qu'un pays comme le Sénégal, et après on va passer à nos autres interlocuteurs bien sûr, est-ce qu'un pays comme le Sénégal fait partie de ces pays où se déroulerait ce que tel et tel expert ou défenseur de l'aide appelle des tsunamis silencieux, c'est-à-dire un pays où le drame est permanent si on peut dire? Est-ce que par exemple, à propos de drame, celui du Djoula est un indicateur de ce climat de tsunami, de difficulté à vivre, de précarité totale?
Non, des tsunamis, si on mesure le désastre à l'aune des nombres de victimes et des dévastations, on peut dire que l'Afrique, depuis 500, 600 ans, vit son tsunami tous les ans. Si on mesure ça au nombre de dévastations, ce qui change ici, ce qui est différent, c'est que les dévastations des accidents naturels entraîne un élan de sympathie, un élan de commisération. En revanche, ce qui se passe, les tsunamis successifs qui se sont succédés depuis 506 ans, tous les ans, ici en Afrique, a le visage de la barbarie. Ça provoque plutôt la répulsion, l'horreur, plutôt qu'un élan de sympathie. C'est toute la différence.
Vous restez en ligne, bien sûr, Sanoumba, et on va passer tout le temps avec vous, ça va de soi. Ivo Kota, vous êtes ici en studio. Alors, votre Congo, puisque vous y vivez, grand malade de l'Afrique centrale, on peut le dire depuis déjà de longues années, est-il un de ces pays africains où se déroule une espèce de tsunami permanent, si on peut dire? Enfin, je sais bien que cette expression est un peu calvaudée, là.
Tout à fait. Je crois malheureusement que le Congo est aujourd'hui un de ces grands pays malades, comme vous venez de le dire, qui vit son tsunami quasiment tous les 4 mois. Je lisais d'ailleurs un des articles en riant comme ça, qui faisait état de cette situation. Chez nous, les tsunamis, vous souviendrez qu'il y a quelques mois déjà, nous avons connu la catastrophe du volcan à Goma. Malheureusement, ce qui se passe chez nous, à la différence de ce que nous voyons ici, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de discrimination face à la mort. Ce qui, au jour d'aujourd'hui, nous, Africains, nous pousse à nous poser la question de savoir si vraiment tous nous étions égaux face à la mort, car une mort reste une mort. Alors, bien entendu, il n'est pas ici question de sous-estimer la catastrophe. Nous sommes tous compatissants face à cette situation, mais cela nous amène à nous poser une question importante sur le rôle des intervenants dans la gestion de cette situation. Alors, il y a dans ces intervenants, dont trois principalement, qui sont les médias. Monsieur Sano en a plus ou moins parlé, qui ont eu à véhiculer l'information, à les orienter. On a vu dans les médias dans les premières journées, on a parlé, bien entendu, de tsunami en évoquant les victimes de l'Afrique, puisque l'Afrique a été quand même touchée. Mais cela n'a duré que
Somalie, un petit peu.
La Somalie, un petit peu, mais monsieur, un mort, ça reste quand même un mort.
200.
200, 300.
C'est beaucoup,
c'est quand même beaucoup. Mais malheureusement, on n'en a pas, on ne sait pas aujourd'hui si il y aura une aide qui sera adressée à ces victimes, qui ont quand même besoin aujourd'hui. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec monsieur Sanou, qui, lorsqu'il intervenait, disait que les Africains n'avaient pas besoin de cette aide. Ce qui me paraît quand même assez malheureux, parce que quand quelqu'un est victime d'une telle catastrophe, a besoin d'une aide d'urgence pour lui permettre de survivre. Car vous savez que dans nos pays, souvent, nous passons notre temps à survivre plutôt qu'à faire autre chose. Et je pense que cette aide aurait pu être intéressante.
Un mot, vous avez parlé de catastrophes naturelles, le volcan, etc. Mais il y a aussi les catastrophes humaines chez vous, qui ont une dimension vraiment considérable, avec ces millions de victimes à l'est du Congo sur quelques années seulement.
J'allais en venir, tout ça, justement. J'ai d'abord parlé de ces catastrophes, parce que je craignais qu'on m'opposât à ce vocable de catastrophe naturelle, le fait que les milliers de morts, si je puis le dire, les 5 ou 6 millions de morts que nous enregistrons chez nous, ne figurent pas dans la catégorie de ce qu'on pourrait qualifier comme étant des catastrophes naturelles. Mais il est un fait aujourd'hui que nous connaissons quand même plus de 4 à 5 millions de morts liées à la guerre, mais aussi cette guerre a des conséquences naturelles qui élimine, qui extermine la population congolaise.
Serge Michael, vous êtes ici également dans le studio. Alors, y a-t-il, à votre avis, après déjà ce qu'on vient de commencer à entendre, y a-t-il danger pour l'Afrique en ce moment d'indifférence, de déroutement des aides à cause de tout ce que pourrait dévorer l'Asie, qui est dans le malheur tout de même? Est-ce qu'on peut craindre que les programmes en faveur de l'Afrique soient anéantis, comme s'en inquiétait tel ou tel il y a quelque temps?
Écoutez, je crois très sincèrement qu'il y a un risque de désintérêt, effectivement, à la fois des opinions publiques occidentales et de l'aide vis-à-vis de l'Afrique, mais je ne pense pas que ce soit lié au tsunami. Je crois que le problème n'est pas budgétaire, c'est un problème beaucoup plus de lassitude vis-à-vis de pays qui, je dirais, ne répondent pas en termes de dynamique économique à ce que les Occidentaux attendaient. J'entendais tout à l'heure monsieur Sanoumba qui justement disait bon, l'aide à quoi ça sert, etc. Et en fait, ça reflète bien également, je dirais, les opinions publiques occidentales sur ce plan, en disant pourquoi continuer à aider des pays qui ne s'en sortent pas. Et je crois qu'il faut de ce côté-là regarder les choses de façon beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus sérieuse. Il y a des catastrophes extrêmement visibles, hein. Le tsunami, c'est évident. Et puis à côté de ça, il y a des catastrophes, je dirais, très discrètes, très silencieuses. Et Monsieur Okota évoquait les morts du Congo, les millions de morts du Congo. C'est quelque chose d'absolument dramatique qui s'est étalé sur des décennies pratiquement. Et quand même, l'une des grandes différences, je dirais, de ces catastrophes discrètes qui interviennent en Afrique avec le tsunami qu'on a vu en Asie, c'est que très souvent en Afrique, il y a des facteurs, je dirais, naturels, mais il y a beaucoup de facteurs humains et politiques derrière qui, je dirais, amplifient grandement les catastrophes.
Oui. Donc ça serait une vague de fond un peu ancienne, une tendance lourde, disons, que ce désintérêt un peu pour le continent et pour la non-efficacité de...
Alors, c'est une tendance lourde, mais qui peut être corrigée. Je dirais que l'un des enseignements qu'on tire au niveau de ce qui s'est passé en Asie, c'est l'extraordinaire capacité des opinions publiques à se mobiliser quand elles sont correctement informées, et je dirais à obliger le gouvernement à être moins avare qu'ils ne le sont habituellement. On a bien vu que c'est le retournement des opinions publiques, par suite du travail remarquable qu'ont fait les médias, qui a permis cette mobilisation exceptionnelle et qui a obligé les gouvernements, en fin de compte, à mettre l'argent sur la table. Bon. On peut très bien avoir ce même type de réaction, je dirais, en ce qui concerne l'aide à l'Afrique, sachant qu'il faut bien différencier de type d'aide. Il y a l'aide humanitaire qui doit répondre à des situations d'urgence extrêmes. On le connaît aujourd'hui au Darfour, on le connaît dans certaines régions du Congo démocratique, on connaît dans quantité de régions africaines. Et puis il y a l'aide au développement qui relève d'une logique très différente et qui est, je dirais, même plus, certainement beaucoup moins médiatique, est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre.
Ouais. Salim Bouaï, l'Asie donne moins l'impression, c'est vrai, c'est ce que disait Monsieur Mikhaïlov à l'instant, d'être un tonneau sans fond, si je peux dire. Et là, j'ajoute un peu en Asie, il y a moins ces élites un peu indolentes ou profiteuses qu'on peut trouver parfois. Et si j'en parle, c'est parce que il vous arrive de me dire comme ça en privé, mais je le dis en public, tant pis, vous me dites parfois, les nègres me désespèrent, dites-vous. On a mis des guillemets, évidemment, partout, hein. Parce que c'est difficile. Bon, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais oui, mais c'est ça. Hein. C'est moi, en tant que nègre, oui. Franchement, quand tu vois ces images des dirigeants africains descendant de leurs aéronefs,
soyez pas trop méchant quand même.
Avec leurs tapis rouges déployés, ces mêmes personnes qui sont autour depuis 40 ans, hein, et si vous voyez le taux cumulé des taux de croissance de ces pays, ils sont négatifs. Et les États n'ayant que des intérêts et pas d'amis du tout, on ne peut pas continuer à mettre ça sur le dos de l'Occident, sur le dos d'un passé historique assez pénible. Il y a une culture politique en Afrique. Et cette culture politique date des rois télé qui vendaient leurs sujets aux esclavagistes. Cette culture politique, c'est quoi? On accepte au pouvoir pour une sinécure, on n'y accepte pas en tant que sacerdoce pour bâtir. Il n'y a pas d'impuissance. Tous les programmes qui ont été élaborés pour le développement de l'Afrique ont été élaborés par l'Occident. Mais l'Occident n'a que ses intérêts et c'est tout à fait légitime. Et qu'est-ce que ça repose sur quoi? Une division, une répartition des cartes. Hein? L'économique et le militaire pour l'Occident, c'est la perpétuation du néocolonial au post-colonial. Le militaire, la sécurité et le politique maintenant pour les locaux. Et ces politiques, qu'est-ce que vous voulez? C'est une sinécure. C'est le plus longtemps possible quand on a introduit la démocratie. Maintenant, on manipule les constitutions. Alors, avec des gens comme ça qui sont déjà peu sympathiques à leur propre peuple, mais quel reflet, quelle image, hein, doivent-ils donner des autres? Alors donc, c'est vraiment une question de politique. Et d'ailleurs, je crois que Tony Blair l'a très bien compris, parce qu'il a mis énormément pour son nouveau plan pour l'Afrique. Ouais. Il a mis énormément de...
On va y venir, Salim Bouaï. On va y venir, Salim Bouaï, parce que la seconde partie de notre débat va être consacrée justement à toutes ces solutions qui existent, même si elles valent pas grand-chose. On va voir ce qu'elles valent tout à l'heure, hein, y compris le plan des Britanniques. Si on revient un petit peu à l'économie, justement, quels critères, pour établir des priorités, par exemple, dans l'attribution de l'aide, c'est quoi le critère? Entre des pays, s'il faut arbitrer entre des pays, si on est un grand économiste mondial, qu'on regarde depuis Washington ou ailleurs, est-ce que c'est quoi? C'est l'urgence, le critères? Est-ce que c'est le taux de croissance, les pays qui se débrouillent bien, ou est-ce que ce sont les pays les plus malheureux, au contraire, qui se débrouillent le plus mal? Qui est-ce qu'on doit aider par les temps qui courent?
Non, on ne doit pas aider, on doit investir. C'est tout autre chose. Notre ami de K. qui est professeur maintenant.
Monsieur Mikhailov, oui.
Le disait bien, il faut distinguer l'aide humanitaire. Je ne disais pas que l'Afrique n'a pas besoin d'aide humanitaire en cas de catastrophe. Je distingue de l'aide en tant que mode de financement. Et cette aide est une aide qui est une aide de dépendance, qui perpétue déjà des peuples qui ont besoin de changer radicalement de mentalité, parce qu'à travers leur histoire, à travers l'esclavage, à travers la colonisation, ils ont développé une mentalité de dépendance. Et la première des choses à faire, c'est de lutter contre cette mentalité de dépendance. Et donc, c'est de l'investissement dont ils ont besoin, de création d'emplois. Et à quoi vous assistez? Tous les pays d'Afrique subsaharienne groupés reçoivent en termes d'investissement moins qu'un seul pays, par exemple, comme l'Argentine ou le Brésil. Pourquoi? Pourquoi investir? Quand on investit, c'est pour récolter des dividendes. Mais pourquoi investir quand on récolte ces dividendes sans investir? Et l'Occident dispose de tout. De tout ce pour lequel l'Occident avait colonisé l'Afrique, ils en disposent encore beaucoup plus aujourd'hui et à moindre coût. Hein? Donc, je ne vois pas pourquoi ils iraient investir. Hein? Prenons le cas du pétrole. Simplement le cas du pétrole. Le pétrole est une ressource stratégique. Tous ceux qui produisent du pétrole ont utilisé ce pétrole comme joker dans les négociations avec l'Occident qui en a besoin. Prenons maintenant le cas de la Russie. Au lendemain de la chute du mur de Berlin, la Russie n'était devenue rien du tout. En l'espace de 10 ans, Poutine a pu, grâce à l'arme du pétrole et du gaz, se replacer. Maintenant, on le caresse dans le sens des poils, aussi bien par les Américains que par les Européens. Prenons les gens du Nigeria. En 25 ans, il y a eu 300 milliards de dollars de rentrées pétrolières qui sont rentrées. Hein? Et le peuple continue de vivre avec moins d'un dollar par jour. Prenez le Venezuela. Hein? Hugo Chavez est devenu le héros de son peuple, a pu battre les Américains qui voulaient le déloger. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé les ressources du pétrole pour la modernisation et la croissance de son peuple. Voilà la différence. C'est-à-dire, du fait de la pesanteur du passé colonial et tout ça, il y a beaucoup de non-dits.
Salom Bay, on va revenir sur tout ça tout à l'heure. Une question pour Serge Mikhailov avant que nous passions au journal. Quelqu'un a dit, c'est Louis Michel, le commissaire européen au développement, pas un euro destiné à l'Afrique ne sera détourné au profit de l'Asie du Sud. Alors, est-ce qu'on peut le croire quand il dit ça?
Écoutez, je l'espère. Enfin, c'est un homme responsable puisqu'il s'exprime de cette façon-là. Je pense qu'il sait ce qu'il dit. Mais je ne pense pas effectivement que le problème soit de nature budgétaire. Le problème est au niveau des opinions publiques, de leur découragement vis-à-vis de ce qui se passe en Afrique. Et je pense que là, il y a une vision peut-être excessivement pessimiste de la situation. Parce qu'il y a des situations qui sont effectivement tragiques, extrêmement angoissantes sur l'Afrique. Et puis il y a aussi, je dirais, des changements profonds. Des brassages culturels, des réformes qui se passent, des expériences qui se développent, une société civile qui est en train de se construire. Et je crois qu'il faut porter un regard beaucoup plus, je dirais, non pas serein, mais enfin, un peu beaucoup plus objectif vis-à-vis de ce qui se passe en Afrique.
Ivo Kota, découragement vous aussi, un peu, vu de Kinshasa?
Non, je pense qu'il n'y a pas lieu d'être découragé. Hein. Il y a plutôt lieu, comme venait de dire Serge Mikhailov, d'être plutôt optimiste. Car nous voyons effectivement que la plupart de ces pays, il y a, quand on analyse les phénomènes humanitaires, je lisais encore une fois, on disait 14 des situations humanitaires que l'on connaît dans le monde, il y en a 12 qui se déroulent en Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes en train quand même de constater une nouvelle dynamique tendant à faire sortir tous ces pays de ces situations quand même qui sont malheureuses.
Alors justement, petite pause, le temps du journal, ensuite la deuxième partie de ce débat, et on verra justement que l'Afrique n'est pas tout à fait oubliée.
Votre courrier par email débat.africain@rfi.fr. Le débat africain.
Philippe Lemarié.
Avec la suite du débat sur les tsunamis silencieux en Afrique, le continent doit-il craindre que l'énorme élan de solidarité en faveur des victimes des vagues en Asie ne joue à son détriment? C'est vrai que de nombreux pays du continent vivent des situations qui peuvent s'apparenter à une catastrophe permanente, avec un état de misère qui les rend vulnérables à tout, hein, aux catastrophes naturelles, aux épidémies, comme aux guerres civiles, on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai aussi que le continent n'a pas été tout à fait oublié. Il y en a qui tentent de remonter la pente à propos de l'Afrique, de l'aide, de l'état économique du continent. Alors plusieurs solutions sont proposées, on va essayer d'en faire le tour et de voir s'il y a tout de même des planches de salut. Vous êtes les uns et les autres, Serge Mikhaïlov, qui est ancien directeur des opérations de l'Agence française de développement, Yves Okota, qui est au ministère de la coopération régionale à Kinshasa, au Congo, et puis Salum Baye, qui est à près de Dakar, qui est économiste, ancien de la Banque africaine de développement et qui est en ligne avec nous, bien sûr, également depuis tout à l'heure. Alors, première chose, première initiative, c'est ainsi Tony Blair qui préside le G8, lance ou relance l'idée d'un espèce de plan Marshall pour l'Afrique. C'est quoi, Serge Mikhaïlov?
Alors écoutez, je crois qu'il faut partir d'une analyse des besoins de l'Afrique. Quand on regarde les besoins en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de routes, d'eau, etc.
En Europe, l'idée d'un plan Marshall, c'est le relèvement général.
C'est une énorme masse d'argent qui tombe, exactement, voilà. Et qui a permis, je dirais, qui a facilité la reconstruction de l'Europe tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Alors, quand on regarde les besoins de l'Afrique, on s'aperçoit en gros que par habitant, ça représente, si on veut satisfaire, je dirais, dans les 10-15 ans qui viennent, les besoins en matière de route, en matière d'eau, en matière de santé, d'éducation, etc., il faudrait investir une centaine de dollars par habitant, par an, pendant les 15 à 20 années qui viennent. Bon. Et on se dit, bon, les budgets locaux peuvent peut-être dégager entre 5 et 10 dollars, l'épargne locale également un petit peu, mais je dirais, quand on fait le compte de tout cela, l'aide internationale apporte peut-être entre 5 et 10 dollars aussi, il doit manquer une soixantaine de dollars par habitant, par an, en investissement, en besoin d'investissement, pour espérer remettre à niveau, je dirais, ces différents pays. D'où cette idée séduisante de dire, on va faire un grand plan Marshall, on va essayer de trouver de l'argent, et les volumes financiers ne sont pas gigantesques, parce que si vous voulez, si vous appliquez 50 dollars par an, par habitant, à quoi, 350 millions d'Africains, c'est-à-dire à peu près la moitié du continent, en Afrique subsaharienne, ben ça représente quoi, 17, 18 ou 20 millions de 20 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près ce que les Américains ont prévu pour l'Irak, et c'est-à-dire pour 25 millions de personnes.
Qui serait trouvé selon
quelle méthode? Alors, qui serait trouvé, c'est le problème là que de l'avarice, je dirais, des différents budgets des différents gouvernements.
La pingrerie,
mais
comme dirait.
Le problème n'est pas seulement un problème d'argent. C'est que l'aide au développement, à la différence de l'aide humanitaire, vous pouvez apporter des sacs de farine. Bon. Mais l'aide au développement, je veux dire, c'est un peu comme faire pousser un arbre. Faire pousser un arbre, eh bien, il faut le planter, et puis il faut l'arroser, et puis des fois ça pousse, des fois ça pousse pas. Quand ça pousse pas, c'est peut-être que la variété de l'arbre n'était pas adaptée, c'est-à-dire que l'aide qu'on apportait n'était pas adaptée. Mais c'est peut-être aussi que le terrain n'était pas fertile. Mmh. Et un peu le grand message, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, il y a des terrains où l'aide au développement ne pousse pas. C'est-à-dire que on a beau apporter de l'aide, je dirais, le développement ne se met pas en place. Je suis d'accord avec Monsieur Salum Baye. Mmh. In fine, le développement se fera par l'investissement local et l'investissement international. Mais tant que ce développement ne se fait pas par l'investissement local, international, eh bien l'aide est bien utile.
Ouais. Et puis alors, il y a ce qu'on a appelé le plan de l'ONU du millénium, je crois, pour l'éradication de la pauvreté. Il y a aussi ces projets permanents, périodiques de remise de dette. Comment tout ça s'articule? On n'y comprend plus rien. Et puis il y a le NEPAD, bien sûr.
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je dirais, arriver à sortir les pays africains de leurs difficultés, c'est pas seulement une question d'argent. C'est une question d'argent, certes, mais c'est pas seulement une question d'argent. Il faut arriver, je dirais, comme pour faire pousser un arbre, il va falloir des fois améliorer le sol, et il va falloir améliorer ce qu'on appelle la gouvernance, de façon un peu savante, ce qui est en fin de compte la bonne gestion des affaires publiques. Alors, en ce domaine, il y a des pays qui gèrent leurs affaires correctement, il y en a des pays qui le gèrent moins bien, il y en a des pays qui le gèrent franchement mal, et les pays qui le gèrent franchement mal, dans certains cas, ça dérape. Et ça dérape dans les conflits. Et à ce moment-là, on se retrouve dans les besoins d'aide humanitaire. Mais en matière d'aide au développement, donc les Nations Unies ont fixé des grands objectifs internationaux, ce qu'on appelle les Millennium Development Goals, qui sont donc des cibles qu'on s'est fixées à l'échelon international. Et on s'aperçoit que ces cibles qui ont été fixées donc pour l'ensemble des pays en développement, des pays très pauvres, les pays africains sont en train de déraper sur l'atteinte de ces objectifs. On s'aperçoit qu'ils vont avoir beaucoup de mal à y arriver, alors que des pays comme la Chine et l'Inde vont les atteindre très certainement. Ça, c'est un vrai problème. Alors, dans quelle mesure certains de ces objectifs n'ont-ils pas été fixés de façon trop ambitieuse pour certains pays africains? Ça, c'est un point qu'il faut regarder au cas par cas. Mais il est certain qu'il ne faudra pas non plus se décourager si certains de ces objectifs ne sont pas atteints, comme on l'espère en 2015. Si on voit certains des pays africains décrocher, ce qu'il faut voir, c'est l'amplitude du décrochement. Il y a des pays qui font des progrès remarquables. Je regardais les chiffres récemment du Burkina, qui n'atteindra vraisemblablement pas, par exemple, les objectifs du millénium en matière d'éducation pour tous, mais qui néanmoins aura fait des avancées assez spectaculaires. Donc il faudra juger ça avec un peu de recul.
Oui. Salumba, nous faisons le tour, nous, actuellement, un petit peu des moyens, des solutions éventuelles, des planches de salut en matière de financement, justement, des projets africains. Et alors, il y a ce fameux NEPAD, dont le président Ouad a rêvé, que le président Mbeki porte un petit peu sur ses épaules en ce moment. Est-ce qu'on sait où ça mène, Salumba, et ce NEPAD?
Mais si le NEPAD devait mener quelque part, il n'y aurait pas eu besoin pour Tony Blair d'innover en matière de plan Marshall pour l'Afrique. Moi, j'ai jamais cru au NEPAD. Il faut voir comment est né le NEPAD. Hein. Il y avait des manifestations monstres contre les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ils étaient pris en cible et ils étaient justement pris en cible pour leur échec en Afrique. Et en Afrique, hein, les dirigeants africains étaient pointés du doigt partout dans le monde pour leur incompétence. Donc, il fallait faire quelque chose. Alors, il y a les deux intellectuels parmi le club des chefs d'État africains, c'est-à-dire Ablaye Wade et puis Mbeki, qui ont concocté le NEPAD. Mais quoi? Le NEPAD, d'abord, un programme de développement pour un continent qui ne contient pas de section sur l'industrie. C'est incroyable. Deuxièmement, le NEPAD repose sur des recettes néolibérales. Moi, je ne vois pas dans l'histoire aucun pays qui s'est développé avec des recettes néolibérales. Même le pays, la Mecque du libéralisme, les États-Unis au 19e siècle, et non seulement, et jusqu'à présent, ils continuent de pratiquer des subventions et du protectionnisme là où ça les arrange, mais obligés les compagnies étrangères qui venaient s'installer, de ne pas venir avec leur personnel expatrié, de venir et de former les locaux. Donc moi, je n'ai jamais vu nulle part au monde où un pays s'est développé avec des recettes néolibérales. Les deux exemples, la Chine et l'Inde, qui sont maintenant des concurrents sérieux, c'est des pays qui ont refusé les recettes des institutions de Bretton Woods en matière de libéralisation et de privatisation. Donc, le NEPAD, moi, j'y ai jamais cru. Et l'histoire, ça m'a donné raison.
Mais vous êtes contre, vous êtes pour l'investissement, mais pas privé, hein, si je comprends bien.
Mais l'investissement, mais justement, c'est ça aussi où le bas blesse. Le NEPAD, on vient. Bon, alors d'abord, comme une découverte, ce que le monde connaît depuis plus de 3000 ans, hein, on dit que bon, pour se développer, il faut investir dans l'éducation, dans les infrastructures, dans l'agriculture. Bon, on a oublié l'industrie. Mais comment financer ça? Il n'y a aucune proposition. C'est pourquoi, par exemple, je me dis que, par exemple, quand Gordon Brown dit, bon, alors, écoutez, laissons l'Occident émettre des obligations sur le marché des capitaux payables sur 30 ans. 100 milliards de dollars. Bon, 100 milliards de dollars d'un coup pour des investissements en Afrique dans différents secteurs. Et dans 30 ans, c'est l'aide publique au développement qui servira à payer cet endettement. Mais alors, au moins, il y a une proposition concrète, un mode de financement spécifique. C'est ça qui est l'incapacité des dirigeants africains, c'est de faire autre chose que de gérer le quotidien. Hein? Même quand ils veulent faire semblant, il n'y a rien de crédible. Le NEPAD, mais on vous dit, bon, alors on va rallier par une transaérienne le Caire au Cap, Dakar en Somalie. Bah, mais c'est bien beau hein? d'emprunter, de construire ces routes-là. Mais pour servir à quoi? Au commerce intra-africain qui n'existe pas.
Sanou, je vous interromps un instant. Yves Okota, qu'est-ce que vous pensez, vous qui êtes au ministère de la coopération régionale à Kinshasa, qu'est-ce que vous pensez de ce projet du NEPAD, vous?
Ouais, écoutez, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'écoutais ce que disait M. Sanou, et quand même un petit peu surpris pour quelqu'un qui reproche aux chefs d'État leur absence de réaction, de réactivité, qui là, une fois, on voit les chefs d'État qui s'embarquent dans un grand projet comme ça de promotion, de développement de l'Afrique. Et je vois, lui qui est du Sénégal, le président Ouad lui-même s'était impliqué dans ce projet du NEPAD à travers le plan Omega qu'il a lui-même porté, soutenu, qui visait essentiellement la promotion des infrastructures pour relier le continent. Et nous connaissons et nous savons tous que le mal le plus profond du continent africain aujourd'hui, c'est cette absence d'infrastructures pour permettre la mobilité des facteurs, qui est aujourd'hui une source de développement important. Alors je suis quand même un petit peu étonné qu'il reproche à ces hommes d'État leur inefficacité, un manque de réactivité, et qui le reproche aussi d'engager ce type de projet.
Restons avec vous un instant, Ivo Kota. On vient d'avoir la réinvestiture officielle du président Bush, Bush 2 donc. L'Amérique qui a les moyens d'imposer un climat politique dans certains pays, et on vient de le voir au Soudan par exemple, on l'a vu même en Libye, etc., peut elle aussi ouvrir de nouvelles perspectives économiques dans certains pays, du coup, en conséquence. Hein. Est-ce qu'on pourrait le voir au Congo un de ces jours, par exemple ?
Je pense que le président Bush a une certaine idée du monde. Et je sais également que le président Kabila n'est pas très loin du président Bush. Pour preuve, il lui a rendu visite plusieurs fois. Donc on ne peut pas dire qu'il soit totalement, il soit en désaccord, c'est plutôt le contraire. Et ça serait quand même un signal intéressant, important de voir le président Bush venir. C'est quand même une grande autorité.
Et qu'il s'occupe de la question de l'Est, par exemple.
Qu'il s'occupe un petit peu, peut-être qu'il le voit d'assez loin. Venir sur place lui permettrait peut-être de mieux comprendre, saisir certaines réalités du terrain qui, j'ose croire et espérer, qui pourront permettre peut-être d'avoir une autre lecture de la situation et enfin régler définitivement cette situation de l'Est qui perdure. Et Dieu sait combien l'intervention américaine est forte au niveau de Kigali principalement.
Ouais. Est-ce que le régime de l'AGOA, le régime américain préférentiel dont bénéficient certains pays, et peut-être le vôtre, le Congo un jour, est-ce que ce régime est intéressant et est une planche de salut à sa manière, ça aussi ?
Je pense qu'il faille l'examiner avec beaucoup plus de minutie. Il y a certainement des critères. Je sais que la RDC s'y emploie et nous analyserons avec beaucoup d'intérêt et nous verrons jusqu'à quelle mesure nous pouvons nous y pencher.
Et puis il y a un autre type de solution, c'est un peu le dernier dont on entend parler de temps en temps, et ça va peut-être vous plaire, Sanou Mbaye. Et si on supprimait l'aide demandée par exemple un quotidien de Burkinabé il y a quelques jours, Le Pays, hein, pour ne pas le nommer, 40 ans d'indépendance et d'échec de la coopération, ça va pas faire plaisir à Serge Mikhaïlov en revanche. Et puis, les États africains, ça marche pas. Alors, est-ce que c'est une solution d'enlever l'aide totalement, de la supprimer en tant que telle?
Mais l'aide ne peut être qu'un supplément que les gens utilisent très peu, comme l'URSS a dû recourir au Fonds monétaire en négociant d'ailleurs de toute façon ce financement. Donc certains pays ont eu recours, comme l'Inde, hein, et tout ça, mais vraiment c'est sur investissement. Et il faut un climat pour que les gens viennent investir. Et ce climat, quels sont les critères pour investir dans un pays? Il faut donc un taux de profit élevé, il faut la sécurité de l'investissement, donc on n'investit pas dans des entités qui peuvent être nationalisées un jour, et il faut la main d'œuvre. Bon, l'Afrique remplit les critères, hein, d'après le bureau d'études même des analyses économiques des États-Unis. En Afrique, on réalise les taux de profit les plus élevés du monde. Il y a un libre. C'est pourquoi d'ailleurs c'est ça qui est à l'origine de l'hémorragie de fuite des capitaux en Afrique. Il y a un libre transfert des bénéfices. Et donc, pourquoi l'Afrique réunissant toutes ces conditions, pour ce qui est de la main-d'œuvre, on dit main-d'œuvre qualifiée, mais quand les multinationales viennent s'installer, les banques européennes viennent s'installer, tout ça, ils savent bien, très bien, très bien trouver les gens et les former. Donc le problème n'est pas là. Donc pourquoi en réunissant toutes ces conditions, encore l'investissement ne suit pas? Mais tout simplement parce que vous n'avez pas besoin d'investir pour acquérir ce que vous avez de toute façon. Sans, les Américains ont fait l'embargo sur le pétrole du Golfe de Guinée. Dans les pays de la zone franc, il y a une occupation à la fois économique et militaire de la France de ces pays-là. Le politique étant laissé aux locaux. Bon, pourquoi les gens iraient investir? Ce que vous pouvez avoir sans investir, pourquoi vous irez investir? Donc, il appartient aux gens, aux dirigeants africains, à l'élite africaine, d'utiliser les atouts dont ils ont, ce qu'il y a, c'est-à-dire notamment le pétrole, pour négocier. En termes de négociation, Il faut aider pour lancer le tango. Oui.
Mais hein? Alors, les pays qui n'ont rien, ça nous, les pays qui n'ont rien ne peuvent pas négocier. Alors, pas de pétrole, pas de négociation.
Mais il y a le pétrole, il y a les zones stratégiques. Et non, attention, là aussi, vous parlez des pays. Mais c'est tout à fait factice. C'est tout à fait factice. Rappelez-vous qu'il y avait deux écoles. Il y avait deux écoles, l'école de Monrovia et puis le groupe de Monrovia et puis le groupe de Casablanca. Quand on approchait des indépendances, il y a des gens qui voulaient un gouvernement continental. Parce qu'on savait que ces frontières artificielles sont totalement factices, c'est du subterfuge. Et il y a ceux qui voulaient, soi-disant les conservateurs, l'école de Monrovia, qui voulaient qu'on garde ces frontières artificielles. Mais ces frontières artificielles ne sont pas praticables, c'est pas possible. C'est pas possible. On voit bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on voit bien ce qui se passe partout. Donc, tu vois, parler de développement de l'Afrique, c'est tenir compte de tous ces facteurs. Donc, c'est parler d'intégration parce que seulement un système fédéral peut éliminer d'une manière élégante ses frontières. Mmh. Seul un système fédéral peut le faire, mais un système fédéral, ça passe par la conquête d'abord de son propre marché avant de conquérir le marché extérieur. En ce moment, ils sont en train de se battre en disant qu'il faut qu'on accepte nos produits à l'extérieur. Il faut que l'Occident arrête de subventionner ses produits. Mais commence par conquérir ton propre marché. Et une fois que tu as mis tes économies à niveau, c'est en ce moment seulement quand tu peux compétir avec l'extérieur que tu t'ouvres vers l'extérieur.
On va demander, ça nous son avis à Serge Mikhaïlov. Est-ce que, à votre avis, la coopération, l'aide aura été sur le long terme un échec? Est-ce que il faut essayer de remettre un petit peu en cause tout? Est-ce que vous êtes d'accord avec la vision de Salum Bay?
Vous évoquiez tout à l'heure le problème du plan Marshall. C'est une grande réussite. Une aide qu'on oublie et qui était extrêmement efficace, c'est l'aide que les Américains ont apportée à la Corée du Sud et à Taïwan pendant toute la période de la guerre froide et qui a aidé prodigieusement ces pays à décoller au plan économique. Donc je reviens un petit peu à mon exemple, il y a des terreaux qui sont fertiles pour que l'aide se développe, aide à développer les pays, puis des terreaux qui sont moins fertiles. Alors il y a des pays dans lesquels l'aide a un effet, de levier absolument prodigieux. On met, 1 million d'euros, et l'investissement local derrière se branche et est fait pour 10 millions d'euros d'activité. Ouais. Et puis il y a des pays où on met 1 million d'euros puis rien ne se passe.
Ce que dit Sanou, entre autres, c'est qu'il y a, notamment en Afrique de l'Ouest, une espèce de carcan un peu politico-militaro-économico, etc., qui fait que les gens n'ont peut-être pas, enfin les États n'ont peut-être pas une forte incitation à se lancer dans l'investissement, dans le développement.
Vous savez, il y a des études qui sont très poussées, qui ont été faites sur l'efficacité de l'aide depuis 4 ou 5 ans. Ces études montrent quoi? Elles montrent d'abord que dans les pays bien gérés, l'aide a un effet multiplicateur absolument colossal. Alors la question qu'on se pose, c'est, et les pays mal gérés, qui sont quand même un grand nombre, qu'est-ce qu'on fait? Alors ces pays mal gérés, c'est plus compliqué. Alors est-ce qu'on les oublie complètement et on les laisse s'enfoncer? Ou bien est-ce qu'on essaie de faire un certain nombre de petites choses, pas à pas? Et je crois qu'à ce niveau-là, il faut essayer de les aider à bâtir leurs propres capacités, à réfléchir sur les politiques qu'ils conduisent, et petit à petit, par en finançant des petites actions, des petites opérations, eh bien on peut arriver à des résultats.
Bien. Merci messieurs. Serge Mikhaïlov, vous venez de parler. Ivo Kota, vous êtes ici dans ce studio. Et merci à vous, Salum Bay de Dakar, pour toutes ces réflexions, souvent très, très dynamiques, très créatrices. Au revoir.
Vous souhaitez réécouter le débat africain? Rendez-vous sur notre site internet. RFI.fr.